Bienvenue dans la saison 1 du podcast Radio Santé Libre, le podcast qui permet de cultiver sa santé librement. Radio Santé Libre est une émission organisée et financée par l'association Econolibre et la communauté de la monnaie libre La June. Le dimanche dès 10h, nous partons ensemble à la découverte d'un nouveau sujet avec des intervenants qui nous aident dans notre chemin d'éveil à la santé holistique. Bienvenue dans Radio Santé Libre, la joie de cultiver sa santé librement.
Bonjour, je suis Odile et nous sommes en train d'enregistrer le podcast numéro 3 en date du 31 janvier 2022. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir deux professionnels de la santé et du bien-être qui vont nous parler du sommeil et qui répondront aux questions que beaucoup se posent concernant la qualité du sommeil avec des approches différentes pour nous aider à y voir plus clair. Et peut-être aussi nous aider à apporter des changements nécessaires dans notre vie pour améliorer nos nuits. Alors, nous avons Jess qui est infirmière en néonate sur le département de l'Aube depuis 15 ans. Elle est également réflexologue et pratique le Reiki. André est naturopathe énergétique traditionnelle chinoise et hygiéniste en région Grand Est. Bonjour à tous et merci d'accepter de participer à cette émission. Voulez-vous vous présenter un peu plus, Jessica?
Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, je suis ravie d'être parmi vous en ce moment. C'est une première pour moi. Et me présenter un peu plus, alors oui, effectivement, ça fait 15 ans que je suis infirmière, 12 ans exactement que je travaille en service de néonatologie, donc c'est... un service qui s'occupe des enfants prématurés, donc nés avant terme, jusqu'à un mois de vie. Voilà, ça fait environ 2 ans que je pratique également le Reiki et la réflexologie. Voilà, deux pratiques qui sont très intéressantes. Ça en devient même très passionnant quand on s'y intéresse et j'ai pu les appliquer. Dans le service de néonatologie dans lequel je travaille, et je peux voir que ça a beaucoup d'effets positifs.
Merci Jessica. André, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi ?
Oui, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle André, je travaille principalement en Grand Est, dans un triangle qu'on va délimiter entre trois villes, Strasbourg, Nancy et Dijon. Je suis naturopathe depuis 2016, et installé depuis 2018, j'ai surtout un passé de malade, puisque c'est au milieu de vie que je me suis reconverti vers la naturopathie suite à 14 années à traverser 2 années de cancer et 12 années de maladie auto-immune, la maladie de Crohn pour pas la nommer. Et c'est ça qui m'a fait changer de vie. Et aujourd'hui, je consacre la deuxième partie de ma vie à l'étude des principes du vivant et à leur transmission. Et au niveau des thérapies que je mets en place, ben j'utilise principalement l'énergétique traditionnelle chinoise et l'homéopathie.
Voilà. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sommeil. La question générale qui nous a été posée est « J'ai des difficultés de sommeil dues à de nombreuses pensées qui tournent en boucle dans ma tête. Comment y remédier ? Avez-vous des conseils sur le plan alimentaire ? Quelles pratiques de santé ou d'hygiène de vie puis-je mettre en place ? » Et je l'ai articulé dans son ensemble de la façon suivante. Il y a en France 16 à 17% de personnes qui disent souffrir d'un manque de sommeil. Et depuis 2 ans, par rapport à la période que nous venons de traverser, il y a 47% de Français qui disent mal dormir. Mais cependant, il y a des personnes aussi qui sont très fatiguées au réveil ou faire des nuits blanches et se lever en forme. Qu'est-ce qu'une nuit blanche et pourquoi de plus en plus de personnes nous disent souffrir d'un manque de sommeil ? Mal au dos, des pensées qui tournent en boucle, le stress, le bruit. Que peut-on faire pour changer et améliorer notre sommeil ? La première question serait, c'est quoi un sommeil réparateur et quelles seraient les causes d'une mauvaise nuit ? Un manque de sommeil peut-il être responsable d'une baisse de notre système immunitaire ? Comment y remédier ? Quelles sont parmi toutes les méthodes existantes, l'alimentation, les compléments alimentaires, un apport de magnésium, des compléments naturels, la literie, l'aménagement d'une pièce, le sport, la gestion du stress, la méditation, autres, comment savoir ce qu'il nous faut? André, y a-t-il une alimentation spéciale pour bien dormir ou des aliments à éviter ou au contraire à consommer ou encore un régime plus adapté? Tu peux nous en dire plus?
Il y a certainement des consignes alimentaires à respecter. Alors, une alimentation en règle générale, même sans parler de l'approche du sommeil, c'est bien quand elle respecte le principe des 3 V, donc une alimentation végétale, vivante et variée. Et si on parle de l'approche, de la phase d'approche du sommeil, c'est assez évident que le dernier repas de la journée, le dîner, qu'il soit le plus léger possible, c'est le mieux. À ce titre-là, par exemple, éviter de faire du dernier repas de la journée, du dîner, un repas principalement de glucides, ce serait une très bonne idée, et plutôt réserver les glucides au repas de mi-journée. Vous avez évoqué beaucoup de questions, Odile, donc voilà, j'ai donné une première piste, peut-être que je peux passer la parole à Jessica pour nous dire ce qu'elle en pense, et puis peut-être j'enchaînerai sur d'autres éléments.
Alors, avant de passer, merci beaucoup André, avant de passer la question à Jessica. Jessica travaille en néonat. Est-ce que ces bébés nés prématurément ont également des problèmes de sommeil et quelles sont les conséquences pour leur développement? Est-ce que cela peut avoir des répercussions dans leur vie future? Si oui, lesquelles? Et comment, selon vous, votre expérience, comment y remédier en fait?
Alors, effectivement, il faut savoir que le sommeil des bébés est différent. Donc, la définition de l'INSERM du sommeil, c'est que le sommeil correspond à une diminution de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil, qui est caractérisée par une perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensitive. Alors, le sommeil du prématuré et du nouveau-né, c'est juste une alternance entre une phase de sommeil calme et de sommeil agité, qui va durer moins longtemps que chez l'adulte. Donc, le bébé a tendance à se réveiller beaucoup plus souvent qu'un adulte. C'est important de savoir différencier ces différentes phases de sommeil pour savoir quand s'occuper de l'enfant. Et c'est important surtout de respecter le sommeil de cet enfant et de ne pas le réveiller quand il dort profondément. Voilà. Les différents stades du sommeil sont le sommeil calme, le calme agité. Ensuite, l'enfant va passer par une phase de transition, une phase d'éveil calme, une phase d'agitation et de pleurs. Alors forcément, si on n'apprend pas à reconnaître toutes ces phases et si les parents ont tendance à aller réveiller l'enfant quand il ne faut pas, ça peut avoir des répercussions sur son développement. Donc concernant les conséquences que ça peut avoir sur le développement, c'est que cela... Donc je vais reprendre à partir du sommeil calme. Parce que pendant le sommeil calme, un enfant il a une respiration régulière, il garde les yeux fermés, il n'a pas d'activité spontanée et il a un visage qui est relâché. Donc en fait c'est pendant cette phase qu'il va récupérer et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a la sécrétion d'hormones de croissance. Par contre, pendant la phase de sommeil agité, le bébé a une respiration irrégulière, il a les yeux fermés, mais on peut distinguer les mouvements rapides sous les paupières, son niveau d'activité est bas, mais il peut faire des petits mouvements avec sa bouche, des gémissements, et c'est à ce moment-là qu'il consolide ses apprentissages. C'est pour ça que c'est important de respecter ces phases de sommeil-là. Alors, bien sûr que ça peut avoir des conséquences sur le développement, parce que l'enfant, jusqu'à 3-4 ans à peu près, il s'endort en sommeil léger, puis profond, donc ça va faire l'alternance entre les deux. Et si on le stimule à des moments qui ne sont pas appropriés, ça peut entraîner une modification des récepteurs cérébraux et des neurotransmetteurs, une diminution du volume cérébral, donc c'est quand même assez important, des troubles de l'attention, et à savoir qu'il se peut qu'il n'y ait pas d'amélioration, même si on enrichit le milieu de vie de l'enfant par la suite. Les répercussions sur les conséquences et les répercussions sur la vie future, ça peut être qu'en grandissant, l'enfant va avoir peut-être du mal à se concentrer parce qu'il sera fatigué, des difficultés d'apprentissage, des troubles de mémoire, des troubles de croissance si vraiment il y a un sommeil qui est très perturbé. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça.
C'est super intéressant, merci beaucoup Jess. Mais vous pratiquez également la réflexologie plantaire et le Reiki. Est-ce que ces méthodes peuvent apporter un changement ou l'avez-vous constaté chez votre clientèle?
Alors oui, bien sûr que le Reiki tout comme la réflexologie sont deux méthodes qui peuvent apporter des changements. Donc par rapport au Reiki, ce que je peux vous dire, c'est que si les séances sont régulières, en elle-même, la séance est une séance aussi qui apporte de la relaxation, hein, et qui permet de rétablir un équilibre interne chez les gens. Ça permet de soulager le stress. On sait que le stress est une des premières causes d'insomnie ou de mauvais sommeil pour les personnes. Donc, en le pratiquant assez régulièrement, ça peut permettre de retrouver un sommeil de meilleure qualité. Tout comme la réflexologie. Donc, la réflexologie, c'est exercer des pressions sur certaines zones réflexes du pied. Donc, en allant stimuler certaines zones bien spécifiques, ça entraîne bien sûr en premier abord une relaxation, mais ça peut avoir également des effets sur les tensions nerveuses, les difficultés d'endormissement, l'insomnie et les réveils intempestifs. Après, est-ce que je l'ai constaté ? Alors, je l'ai déjà constaté sur moi, hein, avec le Reiki plutôt, parce que j'ai eu une période où j'avais des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, c'était une période où j'étais assez stressée, pas mal de pensées intempestives, et en me faisant des auto-traitements réguliers, en quelques semaines, j'ai réussi à retrouver un sommeil qualitatif. Et la réflexologie, en le pratiquant depuis certains moments là sur ma fille qui a des problèmes aussi un petit peu de sommeil et de stress en ce moment, en l'espace de 2 séances, elle s'est rendue compte qu'il y avait déjà du mieux. Donc oui, c'est très efficace.
Super, merci beaucoup Jessica. André, parmi vous avez plusieurs cordes à votre arc. Parmi toutes les activités que vous faites, est-ce qu'il y en a une qui pourrait améliorer la qualité de sommeil ? Comment et pourquoi ? Et est-ce en rapport avec des énergies qui ne circuleraient pas correctement, en fait ?
Alors, pour revenir à un propos un petit peu plus général avant de répondre à vos questions, Odile, je voudrais dire qu'un sommeil digne de ce nom est indispensable à une vie digne de ce nom. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, ni la vie sociale, ni la vie professionnelle ne laissent de place au repos. Quand arrive le moment du repos, on a envie de le consacrer à des loisirs. Ces loisirs, souvent, sont fatigants. Donc, au final, il n'y a plus réellement de place, ni pour le repos, ni pour un sommeil digne de ce nom. Être épuisé sur les moments, sur le moment et surtout dans le déroulé du temps, donc sur les moments longs, ça va nous rendre plus réceptifs et plus perméables aux idées noires, aux sentiments négatifs, ça va nous rendre plus perméables et ça va ouvrir la porte à des états négatifs qui vont jusqu'à l'état dépressif et en tout cas à tout un tas de situations psychologiques, d'échecs, de conflits, de ruptures et même la possibilité de l'accident et évidemment de la maladie. Donc, ne pas laisser se reposer sa vigilance, et c'est ce qui se passe quand on dort, c'est que notre vigilance, notre conscience s'en va et notre vigilance disparaît et elle peut ainsi récupérer, eh ben, c'est tout notre métabolisme qui fonctionne plus mal et en particulier le système immunitaire. Donc, c'est merveilleux d'être passionné par ce qu'on fait la journée. Pour ceux pour lesquels la vie professionnelle est plus dure, ben, c'est usant de passer des journées dans des vies professionnelles qui ne font pas forcément sens pour nous. Et donc, le résultat de tout ça, c'est que le cercle vicieux de l'épuisement généralisé peut se mettre en place. Et on peut noter ici que dans toutes les thérapies, sur tous les continents et depuis toujours, le sommeil et le repos sont les principes de base pour tout rétablissement. Et c'est ce que la nature et les animaux nous enseignent. Quand ils vont mal, ils se reposent. Donc, pour en revenir à votre question un petit peu plus précise sur l'énergie, donc effectivement, l'énergétique traditionnelle chinoise, l'art de la médecine traditionnelle chinoise, nous enseigne un certain nombre de choses sur la lecture qu'il y a lieu de faire de situations compliquées au niveau de la gestion du sommeil et du repos. Notamment, dans son diagnostic par les poux, la médecine traditionnelle chinoise nous permet d'identifier quel est l'organe qui va être le plus en cause dans la recherche de la cause des causes du symptôme sommeil qui ne va pas bien, du symptôme insomnie. Ben, par exemple, hein, si vous avez une tendance à vous réveiller plutôt à 3 heures du matin, après déjà vous être endormi, pas forcément de manière simple, ben, très certainement que c'est votre foie qui est un dérèglement au niveau de l'énergie du foie qui va être la cause des problèmes que vous traversez. Un autre exemple, hein, si vous avez une hypersensibilité au bruit, là c'est souvent le rein qui est en faiblesse. Le moindre bruit vous réveille, très certainement que la première piste de recherche de solutions sera au niveau d'un renforcement de l'énergie du rein. On a la même chose avec l'énergie qui est liée à la loge du cœur, où là, on peut avoir des difficultés au moment de l'endormissement. Donc, sans en faire le tour complet ici, puisque ça serait trop long, et que ce qui est intéressant quand un thérapeute rencontre son patient, c'est d'être dans l'étude du cas précis qu'il a face à lui, voilà, il faut savoir que des outils de diagnostic permettent d'avoir au moins des pistes d'entrée, puisqu'encore une fois, il s'agit de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc, il faut trouver par quel bout on rentre à l'intérieur de tout ça. Et puis, si vous le souhaitez, après, on essaiera de voir quelques éléments un peu plus opérationnels pour dire, à l'approche du lit ou quand je suis dans mon lit, qu'est-ce que je peux mettre en place pour au moins, de manière symptomatique, essayer d'arranger un petit peu les choses, sachant que cela ne nous exonérera pas de chercher la cause des causes, parce que le problème de s'attaquer aux symptômes et pas à la cause des problèmes, c'est que même en prenant des solutions naturelles, ne s'attaquer qu'aux symptômes, c'est prendre le risque que la solution symptomatique finisse par ne plus fonctionner. On l'use et qu'elle finisse par ne plus fonctionner. Alors que si on va chercher la cause des causes et qu'on règle la cause première, très certainement, on arrivera à une amélioration du sommeil et donc de l'état général de la personne et donc de sa capacité, la journée, à offrir au monde la meilleure version d'elle-même, parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit. Si on veut être reposé le matin et en forme, c'est bien pour pouvoir intervenir de manière positive dans ce corps social qui souffre tant.
Merci beaucoup, André. J'ai une autre question qui va vous concerner tous les deux. Concernant les enfants, est-ce que c'est différent des adultes? Est-ce qu'on va les traiter de la même façon? Ou admettons un enfant de 7 ans avec cette histoire qui vit là depuis 2 ans, est-ce que ils peuvent avoir des soucis de sommeil? Et comment on peut les aider? Est-ce qu'il y a des solutions pour les enfants? Ou est-ce que vous proposez, c'est l'équivalent de ce que vous proposez pour les adultes? Est-ce que ça peut aller également sur les enfants? André?
Je crois que les enfants, ils ont un avantage par rapport aux adultes, c'est leur fonctionnement instinctif. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile de perturber peut-être le sommeil d'un enfant que le sommeil d'un adulte. Maintenant, les enfants sont aussi des êtres plus fragiles que les adultes. Le rôle des adultes, c'est de leur créer un environnement qui leur permette de s'exprimer et s'épanouir. Donc, quand un enfant a des problèmes de sommeil, il faut chercher qu'est-ce qu'il se passe dans son environnement pour que son énergie naturelle qui demande qu'à vivre, qu'à découvrir et qu'à apprendre dans la joie et par le jeu, comment se fait-il que des adultes autour de lui aient créé un environnement qui ne remplit pas les conditions de l'épanouissement de cette énergie positive-là. Mais je pense que ma confrère du vivant, Jessica, aura peut-être des compléments d'information à apporter sur un domaine qui est plus sa spécialité, même si je reviendrai parce que je m'étais noté justement quelques petites solutions à destination des enfants. Mais je laisse la parole à Jessica.
Alors, effectivement, je te rejoins, André, sur le fait que de toute façon, ce qui est le mieux pour les enfants, c'est d'avoir un environnement qui soit stable et qui leur permette de s'épanouir au mieux. Bien sûr que les enfants ont souvent, et d'ailleurs tant mieux pour eux, moins de problèmes de sommeil parce qu'ils ne voient pas forcément les choses comme nous. Et ça peut arriver. Donc voilà, ce qui est important, c'est de prendre compte de leurs besoins et puis et quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme tu le disais, de chercher la cause avant tout pour pouvoir essayer de trouver la meilleure des solutions et que tout ça s'arrange en fin de compte. Maintenant, pour ce qui concernerait plutôt la façon de faire ou autre, c'est déjà d'écouter l'enfant, d'essayer de savoir ce qui le perturbe et puis faire en sorte de lui apporter tout ce dont il a besoin. Hein. J'ai pas d'autre chose à dire, je pense, par rapport à ça. Hein. Honnêtement,
serait très riche.
Respecter ses rythmes de veille-sommeil.
Alors, je peux reprendre un petit peu la parole et juste pour vous dire que concernant spécifiquement les enfants, j'ai deux petits conseils, un en homéopathie et un en oligothérapie à donner aux parents, en précisant tout de suite que ces conseils, qui sont très généraux, ne vous exonèrent pas d'aller consulter d'abord un professionnel de santé, et si vous allez plutôt chez quelqu'un qui est dans les médecines alternatives, bah de faire un diagnostic qui soit bien précis et adapté et personnalisé au sujet dont on parle.
Alors André, d'après vous, il existe d'autres solutions à laquelle on pourrait penser, que l'on pourrait envisager pour les enfants ?
Bien sûr, bien sûr, que ce soit en phytothérapie, donc avec les plantes, en tisane ou en gélule, que ce soit en gémothérapie, en homéopathie ou en oligothérapie, on a des traitements qui permettent de soutenir les fonctions et d'apporter des corrections nécessaires. Alors encore une fois, avec une visée symptomatique, donc n'hésitez pas toujours à rentrer en profondeur dans l'étude des raisons qui conduisent à ces états d'insomnie et à cette insatisfaction. Voilà.
Merci beaucoup André, cette émission est vraiment très très riche. J'ai une question plus personnelle. Faut-il se couper des informations qui depuis plusieurs mois nous polluent et abaissent finalement notre système immunitaire en nous maintenant dans la peur? Comment s'apporter de la bienveillance? Est-ce que la joie dans nos cœurs et dans nos vies peut nous aider à mieux dormir en fait? Jessica?
Concernant la première question, faut-il s'occuper des informations qui nous polluent et qui peuvent abaisser notre système immunitaire? Je dirais que si vous vous rendez compte qu'effectivement, d'écouter toujours les informations ou d'entendre des mauvaises nouvelles, etc., ça perturbe votre sommeil, à ce moment-là, oui, il est intéressant de continuer à s'informer, mais sans être toujours devant la télé ou autre, essayer de faire d'autres activités. Ça peut faire partie comme réponse de la deuxième question, comment s'apporter de la bienveillance, par exemple, essayer de faire des choses qui vous permettent de vous détendre, comme par exemple la méditation ou le sport, quelque chose qui permet d'évacuer un petit peu tout ce stress qui vous envahit et qui vous fait réfléchir le soir une fois que vous êtes dans votre lit. Voilà. Essayez de faire quelque chose qui vous apporte de la joie plutôt que de la tristesse.
En fait, plus regarder des pièces de théâtre ou des émissions de rire.
Voilà.
Et André, quelle est votre vision là-dessus, sur cette question?
Alors, faut-il se couper de l'information anxiogène? J'ai envie de dire que la réponse est dans la question. Évidemment qu'il faut se couper de l'information anxiogène. Alors, faut-il couper tous les écrans? Là, ça se discute un petit peu plus. Je dirais que de manière très générale, les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. Donc déjà, quand on approche du moment du sommeil, là, c'est sûr et certain, aucun écran, même si ce que vous passez dans cet écran est intelligent, parce que les lumières que ça dégage vont solliciter votre système nerveux d'une telle manière que vous n'allez pas être dans une bonne phase d'approche du sommeil. Et le sommeil, le milieu, on ne le maîtrise pas puisqu'on est inconscient, en tout cas la conscience est partie, on ne maîtrise que la phase d'entrée dans le sommeil, de sommeil, et le matin, la phase de sortie du sommeil. Donc ça, c'est très important. S'attacher à ce sur quoi on peut avoir un effet. Sinon, les écrans, faut-il les supprimer complètement? Non, évidemment. Avec des écrans, on peut aussi regarder autre chose que de l'information mensongère et que du divertissement abrutissant. Donc, si vous regardez de très beaux films, de très belles pièces de théâtre, de très beaux documentaires sur une nature qui ne vous est pas accessible parce que vous êtes ici et pas là où il y a des tigres et des éléphants qui traversent la jungle, voilà, très bien, très très bien. C'est un excellent moyen d'accéder à de l'information et à du divertissement de manière qui ne soit pas sotte. Sur ce qui est les sentiments et les émotions, évidemment, la peur, la colère, la tristesse, ils ne sont les terreaux de rien de très positif. Donc bien sûr que la joie, l'amour, la bienveillance vont être beaucoup plus épanouissants et vont vous permettre d'arriver au soir avant le moment du coucher en capacité de déposer beaucoup plus facilement vos valises de la journée et donc d'avoir préparé une nuit reposante et un sommeil réparateur.
Y a-t-il à tous les deux un complément d'information que vous souhaitez amener pour aider ces personnes à retrouver des nuits réparatrices et surtout sur du long terme ? Est-ce qu'il y a quelque chose, une question à laquelle on a, qui n'a pas été soulevée, que vous pouvez apporter une solution ? Jessica ?
Alors, pour ma part, ce que je pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il faut savoir s'écouter, savoir prendre des moments de repos dans la journée, comme nous le disait André en début d'émission. C'est important. Ça paraît difficile parce qu'on est souvent dans l'engrenage de toutes les activités qu'on a à faire et on veut absolument boucler tout ça dans nos journées. Mais ce qui est bien, c'est de s'octroyer peut-être une heure après le repas du dîner en se mettant dans un endroit au calme avec une lumière un peu tamisée, une petite lecture ou écouter une musique douce ou faire une petite méditation. Plein de petites choses comme ça qui vont nous permettre d'évacuer un petit peu tout le stress accumulé. Et sur le long terme, oui, c'est des petites habitudes à prendre tous les jours. C'est pas facile à mettre en place au départ, mais au bout de quelques semaines, ça aide beaucoup. Ça entraîne de la détente et ça permet d'avoir un meilleur endormissement.
Merci pour ta réponse, Jessica. André ?
Oui, ben je rebondis sur ce que vient de dire Jessica. Le mot-clé, c'est régularité. Donc, il faut se créer, au moment où on approche le moment du sommeil, des horaires réguliers, des conditions de sommeil régulières, donc au niveau lumière, au niveau température, une température qui ne soit pas trop élevée. Il n'est pas nécessaire qu'il fasse plus de 20 degrés dans la pièce où l'on dort. L'été, quand il y a des étés caniculaires et que la température ne descend plus en dessous de 23 ou 24 degrés, tout le monde a les plus grandes peines du monde à s'endormir et à avoir un sommeil réparateur. D'ailleurs, ils ne le font plus. On se réveille avec des yeux et poches énormes et on a du mal à redémarrer sa journée. Alors, la régularité, c'est pour créer ce moment de détente nécessaire à l'ensemble des fonctions du corps. Si vous voulez que je vous donne comme ça, en vrac, quelques conseils qui me semblent faciles à mettre en place et faciles à suivre, eh bien allons-y. Un premier conseil, dormez dans le noir total. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas à mettre un bandeau type des bandeaux qu'on a dans les avions pour dormir. Il faut être idéalement dans le noir total. Dès que des rayons de soleil touchent un centimètre carré de votre peau, l'information arrive et la production de mélatonine cesse. Et la mélatonine, c'est ce qui vous permet de vous endormir. Évitez les matelas à ressort. Les matelas à ressort sont des aspirateurs à énergie. Préférez un matelas dur dans lequel vous ne vous enfoncez pas, qui ne vous crée pas des problèmes de dos. Aérez la pièce. Respectez bien les cycles. Une nuit, c'est 4 à 6 cycles de sommeil de 80 à 120 minutes. Il y a un début, un milieu, une fin de cycle. Quand un début de cycle arrive, vous bâillez, vous êtes fatigué, c'est le moment à saisir pour aller se coucher et ne pas rater ça. Si vous avez raté ce moment d'entrée dans le cycle, très certainement, vous allez mettre une heure à une heure et quart à tourner dans votre lit et à pédaler parce que vous aurez raté tout simplement le début du cycle. Ayez un rituel. C'est pour ça que la lecture, c'est vraiment très très bien. Se coucher, et c'est bon pour la nourriture de l'esprit, donc se coucher avec un livre, c'est encore la meilleure des solutions pour rentrer dans une première phase de calme. Si on a vraiment des choses qui vous tournent dans tous les sens dans la tête, il ne faut pas hésiter à écrire. Écrire est un excellent moyen de déposer les valises. Vous avez des préoccupations ? Asseyez-vous 2 minutes et écrivez-les. Vous avez passé une mauvaise journée ? Dites pourquoi. Vous êtes préoccupé par ce qui va se passer dans la journée suivante ? Écrivez votre programme de la journée qui vient ou de la semaine qui vient. Il sera sur papier. Il n'aura plus besoin de vous tourner dans la tête. Et allez vous coucher l'esprit libre. Évacuez le stress. Donc là, il y a plein de méthodes, mais j'ai quand même envie de vous en citer deux, parce qu'il y en a une que j'applique très souvent, qui est la cohérence cardiaque. Il s'agit de faire des petits exercices pendant 5 minutes de respiration, et souvent on n'arrive même pas à la fin des 5 minutes qu'on est déjà endormi. Donc C'est le système qu'on appelle 365, hein. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc tout simplement, on inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes, ça fait une respiration de seconde, on le fait 6 fois par minute, pendant 5 minutes, on s'endort comme un bébé très souvent. Et j'ai envie de vous en dire une autre, et c'est pareil, je n'en vois jamais la fin. C'est une technique qui consiste à faire sa revue de la journée, mais à rebours. C'est-à-dire, vous partez du dernier événement vécu dans la journée et vous remontez jusqu'au premier événement vécu dans la journée, en passant par tous les événements de la journée. Personnellement, je ne suis jamais arrivé jusqu'au matin. En général, on s'endort avant. Pas de somnifères, pas de café, pas d'excitants. Les excitations, les états hyper conduisent ensuite à des états hypo. On est tout le temps entre l'hyper et l'hypo. On ne passe plus par des états normaux. C'est extrêmement perturbant. Évitez les lumières bleues, hein, donc tous les écrans. Hein, sachez que même si vous allumez simplement votre téléphone pour vérifier l'heure, hein, vous prenez un shoot de lumière qui fait que ça fout tout en l'air au niveau de la gestion des cycles. Et puis enfin, je veux dire, être en pleine conscience, parce que être en pleine conscience, avoir vraiment envie de dormir, comprendre qu'il y a 1000 raisons bien plus forte de dormir que de vous dire « non, je vais pas dormir parce que j'ai tellement plus à faire, j'ai tellement mieux à faire, dormir est une perte de temps ». Non, dormir, c'est ce qui va vous faire gagner du temps dans la vie. Donc, en pleine conscience, ayez envie de ce moment qui est une récompense. C'est la récompense de chaque journée bien remplie de ce que l'on avait envie de faire et qui a été bien fait, qui fait qu'on tombe tout naturellement dans le sommeil. Voilà. Et pour ceux qui ont vraiment du mal, hein, il y a des thérapeutes, je pense notamment aux sophrologues et aux hypnotiseurs, qui sont deux thérapies qui fonctionnent très bien, qui ont beaucoup à nous apporter et qui peuvent vous transmettre des exercices qui visent à vous autonomiser et qui, une fois que vous les avez acquis, va vous permettre de ne pas être tout seul sans solution quand vous êtes tout seul dans les draps. Merci.
Merci beaucoup. Cette émission est décidément très, 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 très riche. Alors, j'ai une dernière question qui ne concerne pas la santé, qui concerne vos conflits d'intérêts éventuels avec Econolibre. En avez-vous, Jessica ?
Je n'en ai aucun.
Merci. André ?
Ah, je ne crois pas que Econolibre me verse de rémunération, donc j'ai bien peur de ne pas avoir de conflit avec Econolibre.
Eh ben, c'est absolument génial pour terminer cette émission. Alors, nous rappelons à nos auditeurs, en aucun cas les informations et conseils proposés sur Radio Libre ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou à un diagnostic formulé par un professionnel de la santé qui est seul en mesure d'évaluer une prise en charge médicale. C'était Odile. Qui vous a présenté l'émission du jour sur le sommeil pour Radio Santé Libre. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Au revoir.
C'était Radio Santé Libre, le podcast qui permet de cultiver sa santé librement. Retrouvez les podcasts Radio Santé Libre sur notre site internet rsl.econolibre.org. Vous pouvez poser vos questions à nos intervenants à l'adresse courriel suivante santelibre-question@econolibre.org. Pour intervenir dans les podcasts en tant que professionnel, écrivez-nous à l'adresse courriel suivante santelibre-pro@econolibre.org. Merci d'avoir suivi le podcast Radio Santé Libre, la joie de cultiver sa santé librement.